محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب حياكم الله أتوس لطاعته Pourquoi l'ita'atihi, qu'Allah donne la vie? Il y a des savants qui disent que c'est mieux d'ajouter, lorsqu'on dit hayyak Allah, qu'Allah donne la vie, ou prolonge la vie. Il y a des savants qui disent que c'est préférable, c'est mieux de dire prolonge la vie dans son obéissance, l'ita'atihi. Dans son obéissance, parce que ça ne sert à rien de vivre dans la désobéissance. Tu peux vivre de 200 ans dans la désobéissance, et celui qui va vivre une journée dans l'obéissance, ça sera lui le gagnant. Taïb, c'est une première faïda. Pour ce nouveau cours de Tawhid. Donc c'est bien tombé, parce que la dernière fois, dans le cours dernier, on était juste à la fin, les derniers mots du Cheikh, du chapitre du polythéisme. À la fin. Et le Cheikh, il termine par, c'est très rapide, hein, mais une petit conseil, recommandation, fait porter les élèves, leur fait porter attention. Donc ça tombe bien, on va commencer par ça. Puis on clôturera. Naam, naam. Ça a dit, inshallah ta'ala. Puis on clôturera ce chapitre du polythéisme. Et on commencera le nouveau chapitre sur la subdivision de la mécréance et ses genres. La subdivision de la mécréance et ses genres. Taïb, comme vous le savez, la mécréance, il n'y a pas une mécréance. Sinon, c'est qu'on est des khawarij. Donc, concernant le cours précédent, alors, il y avait deux choses que je devais mentionner. D'abord, comme l'a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Man la yashkurun nas, la yashkurullah ». Donc, nous tenons à remercier les élèves. Déjà, en général, on remercie tous les élèves. Mais là, c'est particulier, on remercie comme le prophète Assalam nous a dit, celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. Donc on remercie les élèves qui ont fait des dons pour l'institut. Barakallahu fiikum. Et qu'Allah mette ça sur la balance de vos bonnes actions. Fimizan hasanatikum yawm al-qiyama, le jour de la résurrection. Amin. Tayyib. La deuxième chose, c'est concernant l'invocation que nous avons mentionnée dans le cours précédent sur le polythéisme. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour le polythéisme dont nous n'avons pas connaissance et des péchés dont nous n'avons pas non plus connaissance. Concernant cette invocation, il y a des savants qui disent, et ça c'était plus dans notre contexte, qui disent que cette invocation elle est venue dans un contexte de polythéisme mineur, pour la petite association, mais les savants en général, ils disent que cette invocation, c'est l'invocation du shirk en général. Donc elle comprend également le polythéisme majeur. C'est comme par exemple, on a vu le shirk el-khafi, le polythéisme caché. On a dit que dans notre contexte à nous, dans la subdivision, Il fait allusion au polythéisme mineur, l'ostentation et autres, mais polythéisme mineur. Mais en général, dans le polythéisme caché, al-khafi, shirk khafi, il y a des savants qui disent que le shirk khafi, il peut être aussi majeur, afwan majeur, taïb, ça peut être aussi du grand polythéisme. Donc pour conclure cette invocation qu'on a mentionnée dans le cours précédent, elle englobe toutes les formes de polythéisme. Quand on étudie comme ça et on prend le chapitre du petit polythéisme et qu'on cite ce hadith, cette invocation, elle sera dans le contexte du polythéisme mineur. Mais en général, si vous demandez aux savants, ou si vous faites une recherche et vous cherchez l'invocation qui protège ou qui prémunit ou qui expie le polythéisme majeur, vous trouverez cette invocation. Taïb. Donc, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah ou Ta'ala, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est le premier ouvrage à l'Institut dans le Tawhid. Ça signifie que les questions, elles sont en résumé. On commence à acquérir des petites bases. Mais plus on va avancer dans les ouvrages, plus il y aura du détail et plus les choses, là, on va acquérir encore plus de bases, des bases sur les bases. Taïb. Par exemple, le détail du shirkul akbar ou le détail du shirkul asrar, ça. Dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, ça va. Il y a un détail sur ça. On fera dans le détail, Inch'Allah. On fera, Inch'Allah ta'ala, dans le détail. Tayyib. Donc le cheikh nous dit la dernière parole. Là, on est dans la fin du chapitre du polythéisme. Après le polythéisme, il est fini après ça. Pour le moment. Le cheikh nous dit la dernière parole concernant cette catégorie, ce deuxième genre parmi les genres de polythéisme, de tawhid. Page 116, oui, c'est bien la page 116. Hein. Ils ont dû se tromper, ils ont mis Tawhid alors c'est Shirk. Taïb. Donc, cette dernière parole concernant la deuxième catégorie parmi les catégories de polythéisme. Le cheikh nous dit, médite. Et assimile bien la parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala et la parole de l'imam, le savant ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que tu ne dois pas délaisser la vérité face au fait qu'il y ait peu de gens qui suivent cette vérité. Également, ne te fie pas au faux, c'est-à-dire le fait qu'il y ait énormément de gens qui sont perdus, mais ô toi, étudiant en sciences utiles, étudie-la science utile à la lumière, à la voix des pieux prédécesseurs. Plus particulièrement en ce qui concerne la science de l'unicité et ses genres. Et la connaissance de son contraire, le polythéisme. Il y avait certains parmi les savants vertueux, avec toute leur connaissance et leur force dans la religion, et tout ce qu'on sait d'eux, ils vivaient et prêchaient à une époque où il y avait peu d'ambiguïté et énormément de bien. Malgré ça, ils répétaient l'enseignement des livres sur le tawhid, plus particulièrement les mutun de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, tout le temps, jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à ce que certains leur ont dit, pourquoi, à quoi bon? Un des grands savants répondit, au moment où nous nous tenons sur les fondements, au moment où nous construisons de bons fondements, il sera plus facile pour nous de construire par la suite. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la majorité des gens, lorsqu'ils se convertissent après la mécréance, ou alors ils sont nés dans l'islam, c'est-à-dire ils sont nés dans l'islam et ils veulent se tenir sur la droiture de la législation, il y en a qui obéissent à Allah et son messager, ils sont donc musulmans, soumis, avec eux ils ont une foi. Le cheikh nous dit, c'est un terme particulier, une foi générale. Une foi générale. Mais écoutez bien, le cheikh nous dit, mais s'agissant de la vraie foi qui entre dans leur cœur, cela se fait petit par petit à petit s'ils obéissent à Allah. Sinon, à part ça, la plupart des gens n'atteignent pas la certitude. Ils ne combattent pas. Si on les soumet au doute, ils doutent. Si on leur ordonne de combattre, ils ne combattent pas. Combattre, c'est un terme général. Le combat se divise en plusieurs catégories, comme le disent les savants. Le combat du shaitan, le combat de son âme, le combat du shaitan et le combat de l'ennemi. Ils n'ont donc aucune connaissance de la certitude. Ils n'ont pas la force en l'amour d'Allah et de son messager, ce qui les rendra ce qui les poussera à avoir comme priorité, plutôt à ne pas avoir comme priorité, la famille et les biens. فتنب أيها المسلم وأسأل الله أن يرزقك البصيرة في الدين مع السعي في أسبابها. Le cheikh nous dit: Le cheikh nous dit, attention ô toi musulman. Attention. Et le cheikh ensuite il fait une invocation, je demande à Allah qu'il te rétribue, qu'il te donne comme subsistance la clairvoyance dans la religion et que ses causes soient élargies, larges, vastes plutôt. فإن المصيبة كل مصيبة مصيبة الدين. Ça, c'est une grande, grande parole, ça. Le cheikh nous dit, et la calamité des calamités, l'épreuve des épreuves, c'est l'épreuve dans la religion. Et qu'Allah nous en protège. Taïb. Donc, ce que nous, cette recommandation, ce conseil de notre cheikh, ici, il faut bien le saisir. C'est qu'il y a beaucoup de gens, ils sont rentrés dans l'islam. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que la foi, la certitude, le tawhid, il n'est pas entré entièrement dans leur cœur. Il n'est pas entré entièrement dans leur cœur. Et ça, c'est grave, parce que c'est la plus grande des épreuves. On va appuyer ça, inshallah ta'ala, par la parole de Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui nous dit: la plus grande épreuve n'est pas de perdre un enfant, de perdre tous ses biens ou autre. La plus grande épreuve, c'est d'être éprouvé dans sa religion. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est rien du tout de perdre un enfant, de perdre ses biens. C'est pas ça le sens. Mais il y a des gens, quand il leur arrive ça, ils pensent que c'est ce qu'il y a de plus, mais en réalité, de plus grave, de plus dur. Mais en réalité, le plus grave, le plus dur, c'est d'être éprouvé dans la religion, dans ta religion. Le fait de faire du polythéisme, le fait de ne pas avoir concrétisé le tawhid, le fait de faire des grands péchés sans se repentir, le fait d'avoir de l'hypocrisie, le fait de ne pas être sur la voie des salafs, le fait de faire des innovations. Le cheikh ici, il nous dit, la plupart des gens, ils sont dans ce cas-là. Est-ce que vous vous imaginez? La plupart des gens, ils sont dans ce cas-là. Wallahu musta'an, c'est pour ça qu'il demande d'être préservé, le cheikh. Et une des causes pour être préservé de ça, alors vous me direz, à chaque fois on revient à la même chose, et oui, c'est la base, c'est normal. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Le médicament, c'est l'ilm. Bien entendu, avec la pratique, parce que l'ilm, la science sans la pratique, c'est caduque. C'est nul. Parce que toute cause de bien dans ce monde est due à la connaissance. Et toute cause de mal dans ce monde est due à l'ignorance. Donc c'est pour cela que le cheikh, il termine ce chapitre du polythéisme en beauté pour prévenir les étudiants. Les étudiants particulièrement, mais en général le musulman. Énormément de gens. On va essayer de vous éclairer un peu plus sur la parole du cheikh, malgré qu'elle est claire. Énormément de gens, ils sont entrés en islam. Ils sont entrés en islam. Eh bien, vous savez que ils sont entrés en islam, mais vous avez une catégorie qui en sont ressortis illico. On peut donner des exemples, hein. Il y a des gens qui rentrent dans l'islam et puis qui finissent dans des sectes où il y a du kofr, du grand polythéisme, ils sortent de l'islam. Comme les Habbesh, qui est un groupe, comme l'ont dit les savants, Habbesh, qui sort de l'islam. Vous imaginez, ils vont chercher des gens qui viennent d'entrer dans l'islam pour les faire sortir de l'islam. Wallahu al-musta'an. Et pour eux, les gens de la sunna sont des mécréants. On doit refaire la shahada. Pour eux, selon eux. Donc ça, c'est un premier exemple. Vous avez des gens qui entrent dans l'islam, qui finissent dans le polythéisme. C'est-à-dire, ils entrent dans l'islam, ils restent des awam sans apprendre leur religion. Et la première personne qui les tire vers le polythéisme, ben, ils vont tomber normal parce qu'ils ne connaissent pas. Comme l'a dit le cheikh, il y a des musulmans à la première ambiguïté qui se présente à eux. Au premier doute, parce que c'est encore plus grave, le doute. Vous savez, il y a les waswas. Les savants disent il y a les waswas. Les waswas, au stade des waswas, ça peut se soigner, c'est soignable. Mais après les waswas, le shaitan il fait les waswas, c'est pourquoi? C'est pour ramener au doute. Et là, les doutes, attention, c'est grave. Ça peut faire sortir de l'islam. Le shaitan, il passe par les waswas et ensuite des waswas, il te ramène dans les doutes. Et combien on a de musulmans qui doutent? Combien on a de musulmans qui doutent? Donc attention, attention. Il ne suffit pas d'être musulman. Musulman comme nous on le conçoit aujourd'hui. Parce que si on était vraiment musulman, ça veut dire soumis. Ça veut dire, c'est quoi l'islam? Soumis à quoi? Au tawhid. Donc normalement, toute personne qui est vraiment musulman, il n'a pas de problème de tawhid. L'islam lillahi bit tawhid. L'islam, c'est la soumission à Allah dans son unicité. Voilà l'assujettissement à Allah subhanahu wa ta'ala dans wal-inqiyad lahu bi at-taha, dans son obéissance. Donc normalement, le musulman, le vrai musulman, il a le tawhid, il est soumis dans le tawhid. Deuxièmement, il obéit à Allah. Et troisièmement, le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Le simple musulman, normalement, voilà ce qu'il doit acquérir. Et on voit énormément de gens aujourd'hui qui sont musulmans, ils n'ont pas concrétisé tout ça. Voilà pourquoi le musulman doit apprendre sa religion correctement avec les gens de la sunna. Il arrivera une époque où pratiquer, être multazim, être dans la droiture, sur la droiture, pratiquer la sunna, ça sera extrêmement difficile, comme une braise de feu dans la main. Le hadith, comme vous le savez. Salam alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Y a-t-il une différence entre soumission et assujettissement? Effectivement, il y a une différence entre les deux. Effectivement, il y a une différence entre soumission et assujettissement. Comme j'ai une réponse, mais je ne suis pas sûr, j'ai oublié. Je vais essayer de vérifier en quelques secondes ici. Pour l'un, vous dites dans l'unicité, pour l'autre, dans l'obéissance. Naam, c'est une très belle remarque. Naam. Je vais vous dire ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc on essaiera de chercher en fin de cours. Parce que là, ça prend plus de temps que prévu. Taïb. Wallahu a'lam, il y en a un. Si je me souviens bien, il y en a un, c'est la soumission avec le cœur et l'autre, c'est avec les membres. Mais il faut quand même que je vérifie. Parce que ça fait longtemps, je ne suis pas sûr. Wallahu a'lam. En fin de cours, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de trouver ça. Et si on ne trouve pas, ça sera dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. À la kulli hal, c'est sûr, hein, il y a une différence. Hein. C'est sûr et certain. Ça, j'en suis sûr. Il y a une différence. Elle n'est pas. Et wallahu a'lam, peut-être même il y a des savants qui disent qu'il n'y a pas de différence. Mais je me souviens avoir vu un exposé sur ça où il y a une différence entre la soumission et l'assujettissement. Mais il y en a qui disent que c'est pareil, c'est la même chose. Tayyib. Donc retenez bien cette recommandation de notre cheikh, très importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas, il ne faut pas se faire prendre dans le stratagème du shaitan, comme énormément se font prendre. C'est bon, je suis musulman, je suis les gens de la sunna, je suis ceci, je suis cela. Ce ne sont pas les prétentions, les appellations qui vont te faire entrer au paradis, qui vont te sauver, ou qui vont nous sauver le jour de la résurrection, ou dans la tombe, ou autre. C'est pas tout ça. C'est la réalité de l'application. Exemple. Une personne qui dit toute la journée, je suis mouahid, je suis mouahid, mais qui n'a pas concrétisé le monothéisme. Une autre personne qui ne dit pas, lui, il œuvre. Lui, il œuvre. Il pratique, il apprend, etc. On devine tout de suite que c'est le deuxième, malgré qu'il ne prétend pas, ne prétend quoi que ce soit. C'est lui qui concrétise. Wallahu a'lam, c'est lui qui concrétise. Donc, apprendre, œuvrer. Les prétentions, c'est uniquement, comme le disent les savants, dans la plupart du temps, en général, les prétentions, c'est quand on est sur le fait accompli et que là, il faut qu'on dise que, il faut qu'on marque la différence. Il faut qu'on marque la différence par des prétentions. Naam, on suit les gens de la Sunna. Naam, on suit la Salafia. Naam. Non, on est contre ceci, contre cela. Quand la situation t'appelle à exposer cela, là, c'est un devoir. Mais quand il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu, comme le disent les savants. Taïb. Donc nous avons un nouveau chapitre, la subdivision, c'est-à-dire les différentes catégories de mécréances et ses genres. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit, la mécréance est de deux catégories. La première, la mécréance qui fait sortir de la communauté. La mécréance qui fait sortir de la communauté. Donc, on va vous donner une technique comme ça. Quand vous entendez que quelque chose fait sortir de la communauté, alors dites-vous que c'est la catégorie, la grande catégorie, la catégorie majeure. Taïb, si on parle de choses, on parle de polythéisme majeur. Plutôt, on parle de polythéisme qui fait sortir de l'islam, on dira que c'est le grand polythéisme. Si on parle d'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, on parlera de grande hypocrisie. Si on parle de mécréance qui fait sortir de l'islam, on parlera de la grande mécréance. Taïb. Donc ça, c'est une faïda pour reconnaître. Comme ça, pour des indices pour reconnaître les grandes catégories. Quand tu entends ça fait sortir de l'islam, dis-toi que c'est catégorie majeure. Donc ici, on nous dit, l'auteur nous dit, la mécréance est de deux genres. Il y a deux mécréances. La première, la mécréance qui fait sortir de l'islam, elle est de cinq genres. Elle est de cinq genres, cette mécréance qui fait sortir de l'islam. Le cheikh nous dit, lorsque l'auteur a terminé de mentionner le polythéisme et ses genres, il va passer maintenant. Il passe à la suite, à l'explication de la mécréance. de la mécréance. La mécréance, dans la langue arabe, c'est le fait de couvrir quelque chose. On nous dit que le polythéisme et la mécréance, dans la langue arabe, ils peuvent se rapporter à revenir à un seul sens. C'est une faïda au passage que nous dit le cheikh. On parle ici de la mécréance de quoi? La mécréance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mécroire en Allah. La mécréance en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? La mécréance, c'est quoi? C'est un nom pour désigner celui qui n'a pas de foi. Retenez bien. Retenez bien, c'est important. La mécréance, qu'est-ce que c'est? C'est un nom pour désigner celui qui n'a pas de foi. Wa inna man qasama al-kufr ila naw'ayn. La mécréance, donc, elle se divise en deux catégories. La mécréance, le cheikh nous dit, elle se divise en deux catégories, la mécréance majeure et la mécréance mineure. C'est ce qui a été rapporté dans les textes de la révélation il y a deux formes de mécréance. La grande mécréance et la petite mécréance. Donc c'est important, ce sont des fondements, ça. Vous allez voir que ici, déjà, vous le savez déjà, on étudie des fondements. Et ça, c'est un fondement important. Pourquoi? Parce qu'il y a des sectes, des groupes qui, pour eux, comme les Khawarij, la mécréance, il n'y a qu'une seule catégorie pour eux, la grande mécréance, et tous ceux qui font des péchés ou de la mécréance, ils sortent de l'islam. Mais on a bien vu que selon le Kitab ou la Sunna, selon la méthodologie des salaf, c'est eux qui nous ont expliqué les premiers, le Kitab ou la Sunna. Les versets du Coran et les hadiths sont les compagnons qui nous les expliquent. Et selon la méthodologie des salafs et des grands imams de la Ummah, la mécréance, elle se divise en deux catégories. La mécréance, la grande et la petite mécréance. La petite mécréance n'atteint pas la limite de la grande mécréance. Comme on l'a vu pour le polythéisme. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, la plupart des savants le mentionnent. C'est d'ailleurs la définition du comité permanent des savants, l'Ejnatud Daima, concernant le polythéisme. La définition du petit polythéisme. Les savants nous disent, c'est ce qui a été désigné par le législateur comme polythéisme, mais qui n'atteint pas la limite du polythéisme majeur. Pourquoi on vous cite ça? Parce que c'est la même chose pour le kufr. C'est ce qui a été désigné comme mécréance, mais qui n'atteint pas la grande des limites de la grande mécréance. C'est comme ça qu'on reconnaît la grande catégorie, la petite catégorie. C'est important. Ce sont des règles, des outils pour comprendre et pour discerner. Pour comprendre et pour discerner. Quand vous avez ces outils-là, vous n'êtes plus comme Monsieur Tout-le-Monde, comme les Awam. Parce que tous les outils, toutes les règles, toutes les bases que tu vas acquérir en étudiant les matières, les sciences religieuses, ça va te permettre de distinguer ce que le commun des gens n'est pas capable de distinguer. Quand est-ce c'est du grand polythéisme? Quand est-ce c'est du petit polythéisme? Quand est-ce c'est de la grande mécréance? Est-ce que ça c'est de la mécréance qui me fait sortir de l'islam? Est-ce que ça c'est de l'apostasie? Est-ce que... Ou dans le fiqh, est-ce que ça c'est haram? Est-ce que là je suis en état d'impureté? Est-ce que je dois tenir est-ce que je dois considérer ceci, cela? Dans toutes les matières. Est-ce que le hadith, là, je peux dire qu'il est faible? Toutes les matières. Ce que vous apprenez, c'est des outils, des bases, des fondements pour discerner, distinguer, même juger ce que le commun des gens ne peuvent pas faire. Et même des étudiants ne seront pas capables dans le sens où s'ils n'ont pas étudié correctement. C'est pas le tout d'étudier, attention, hein. C'est pas le tout de dire je fais du karaté. C'est pas le tout de dire j'ai appris à cuisiner. Mais il faut le faire avec les vrais gens compétents pour que ça porte ses fruits, les vrais fruits. Regardez beaucoup de gens qui se sont avancés en disant on a étudié, on a étudié. À la kulli hal, non, ils ne disent pas on a étudié, on a étudié. Afwan. Ils se sont mis en avant, mais il y en a, on peut dire, ils ont étudié seuls ou ils n'ont pas les références qu'il faut. On sait ce que ça a donné. On sait ce que ça a donné. S'ils auraient étudié correctement le manhaj, la aqida, surtout, 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 le comportement, surtout, il y a énormément de choses qui n'auraient pas eu lieu, qui n'auraient pas existé. Lorsqu'on étudie vraiment le comportement avec les gens compétents, comme vous l'avez constaté, et c'est pas fini, vous allez voir. Ça ne fait que commencer dans le comportement. C'est miraculeux, hein? On va voir des choses incroyables dans le comportement. Et là, on verra, mais où sont passés les gens qui ont appris et qui pratiquent ce comportement? Donc voilà, pour vous dire que même ici, dans le Tawhid, vous êtes en train d'apprendre des fondements, des règles, qui sont des outils, non seulement que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas, mais non seulement qui vont être un bouclier pour votre foi contre les ambiguïtés, contre les doutes, contre les sectes. Et personne aujourd'hui ne peut prétendre à oh, je peux m'en passer, oh, j'en ai pas besoin, etc. Parce que c'est faux. Cela est faux. Comme on l'a dit et redit, dans un cours, une faïda que tu vas prendre, que tu vas écouter ou pratiquer, elle va changer ta vie. Peut-être tu étais destiné aux gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, amin. Et une faïda dans un cours, elle va te diriger vers le paradis. Qui peut dire j'en ai pas besoin, j'en veux pas? Et quelle que soit la langue, hein, quelle que soit la langue, qui peut dire j'en veux pas? C'est pour ça qu'on va terminer Avec une parole, c'est un conseil, une recommandation. Au vu de l'importance du trésor que vous avez entre les mains. Wallahi, je vous le dis, hein. Wallahi, je vous le dis. Ne laissez personne vous priver, vous éloigner ou ce que vous voulez, quelle que soit la manière dont la personne va procéder. Ne laissez personne vous séparer de ça. Exemple, la science utile, ça ne vaut pas tout l'or du monde. Donc même si on vous propose des trucs de dunya, de l'argent, des boulots, tout ce que vous voulez, ça ne vaut pas. La science utile, ça ne vaut pas un mari ou une femme. Au risque de vous étonner, mais ça reste la vérité. Si un mari ou une femme est contre le fait que tu étudies, il n'aurait mieux valu pas avoir ce mari ou cette femme. Et il y avait même une parole chez les étudiants à l'Institut de Cheikh Mokbel qui disait: un enfant qui est une barrière entre toi et la science utile, il aurait mieux valu pas avoir cet enfant. Alors, peut-être difficile, Naam, peut-être difficile à concevoir. Il y avait par exemple une sœur, une grande étudiante à l'Institut de Cheikh Mokbel, je me souviens, parce que c'était une amie de la famille. Elle avait les clés de la Maktaba de Cheikh Mokbel. C'était la responsable de la Maktaba de Cheikh Mokbel. Et c'était, je ne sais plus, c'était une Anglaise ou une Américaine, je crois que c'était une Anglaise. Elle s'était mariée avec un frère de France. Vous savez, elle avait mis quoi comme condition de mariage? Tu m'empêches pas le talibul ilm. Je crois, Allah alam, elle avait mis que ça. Tu ne m'empêches pas d'étudier. Le matin, elle part à la mosquée, elle fait les cours. Tu m'empêches pas d'étudier. Le frère, il a accepté. Mais si tu as une personne qui veut pas, qui est pas d'accord, c'est pas le souci de l'institut un tel ou le prof un tel, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si la personne ne veut pas, mais qu'elle n'est pas capable de te donner mieux, ça vaut pas. Peut-être il va te détourner de ton paradis. Le shaitan, il va lui amener des fausses excuses. Oh, moi je préfère que tu étudies ceci, moi je préfère que tu fasses comme ça, moi je préfère. Si à la fin c'est vrai, il va te diriger vers des enseignants ou enseignantes compétents. Tu es toujours dans ton chemin de paradis parce qu'on a dit, et c'est même pas on, c'est le prophète, Hassan a dit, celui qui prend un chemin vers la science, Allah Ta'ala lui facilite un chemin vers la science. Manil tamassa tariq, il a ilm. Donc, tu ne laisses pas quelqu'un qui va se mettre entre toi et ce tariq. Tu ne laisses pas, puisque tu ne fais rien de mal. C'est comme si on te retirait un chemin vers le paradis. Wallahul musta'an. La personne qui vient te retirer un chemin vers le paradis, il aurait mieux valu pas la connaître, hein, je vous le dis. Hein. Excusez-moi, sérieusement. Mais ça, c'est vous et votre foi. Ça, c'est vous et votre la valeur que vous donnez au talibul ilm. Naam, chemin du paradis. C'est un chemin vers le paradis, c'est pas un chemin vers la science. Naam, barakallahu fik. On appelle ça sabaq al-lisan, hein. Des fois on a la langue qui. Parce qu'on pense à autre chose pendant qu'on est en train de réciter un hadith ou. Naam. Donc, attention, attention, attention. Un chemin vers le paradis, et il y a des gens, ils viennent comme ça, ils vont essayer de vous détourner de ce chemin du paradis. C'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que religieusement parlant, c'est ça en fait. On va pas appeler quelque chose par autre chose. C'est exactement ça. C'est pour ça que il y a une règle chez les savants. Il y a une règle chez les savants, c'est que si quelque chose est nuisible à ta religion, ça c'est une règle, c'est un fondement. Ils se basent sur ça, les ulamas, pour répondre à des questions. Si quelque chose est nuisible pour ta religion, ça va te toucher toi dans ta religion, même si c'est proche. Même si c'est proche, même si c'est ta maman, elle fait du shirk, du polythéisme, eh ben tu l'évites. Tu éviteras ta maman. T'as le droit de couper les liens avec elle. Wallahu a'lam. Si c'est nuisible pour ta religion. Donc quand quelque chose est nuisible pour ta religion, tu dois te débarrasser de cette chose. Ça, c'est une règle chez les savants. Ils ne vont jamais faire précéder les savants en se basant sur cette règle. Quelque chose qui nuit à ta religion sur le fait que quelque chose plutôt qui nuit à ta religion tout court. Ils ne vont jamais faire précéder ça. Si le mieux pour ta religion, c'est te débarrasser des gens ou des choses qui nuisent, eh bien, ils te diront débarrasse-toi. Maintenant, pour être plus précis, parce qu'on a donné l'exemple du mari ou de la femme, comme ça. C'est un des premiers exemples qui nous est venu. Concernant les questions obligatoires à apprendre pour le musulman, on n'a pas le droit d'empêcher le conjoint de les apprendre. Comme le tawhid. Oui, effectivement. On l'a vu, hein. Nous-mêmes, on l'a vu par expérience. Hein. Le shaitan, il peut se servir du mariage pour éloigner quelqu'un du talibul ilm. Je vous parle par expérience, attention, hein. C'est pas on m'a dit, j'ai entendu. Hein. On a vu des cas. On a vu des cas comme ça. Il y avait des frères, ça faisait 7 ans qu'ils étaient à l'institut de Cheikh Mokbel. Ils se sont mariés. Au bout de quelques mois, même pas une année, hop, ils sont partis, ils ont tout lâché. On a compris tout de suite, hein. On a compris tout de suite. Des vrais étudiants. Oui, les enfants, ça prend du temps. Au-delà du devoir, le souci, c'est que le shaitan, il va utiliser toutes les portes. Je vous assure que vous allez me dire, mais on est dans un film. Ne soyons pas naïfs. Hein. Le shaitan, par exemple, quelqu'un n'est pas marié. On va donner l'exemple du célibataire et ensuite on va donner l'exemple des enfants. L'exemple du célibataire, excusez-moi du terme. Le shaitan, il va chauffer la personne, il va te la chauffer jusqu'à ce qu'elle se marie par précipitation. Elle n'aura même pas pensé, la personne, mes cours, mon talab al-ilm, mon paradis, non, non, je veux me marier. Il va te chauffer la tête. Tu seras tellement pressé que tu verras rien d'autre. Je veux me marier. Et on ne dit pas qu'il ne faut pas se marier, attention. Hein. A'oudhou billah. Le prophète Hassan a dit mariez-vous. Donc ce n'est pas nous qui allons dire mariez-vous pas. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwaj. C'est le prophète Hassan qui a dit, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il se marie. Oh les jeunes. Et celui qui ne peut pas, fa'alayhi bis-sawm, qu'il jeûne. Donc on ne va pas interdire, non, mais on dit de attention. Attention. Et après, tu penses pas au temps le BM, après tu es marié, et après tu n'as plus le temps. L'idéal, c'est ou de se marier avec un étudiant. Alors ça, c'est l'idéal, hein. Un étudiant et vous étudiez ensemble, ça, c'est l'idéal. Ou de se marier avec quelqu'un qui n'est pas contre, et doucement, vous allez l'amener. Vous allez l'amener à l'étude de la science. Vous serez la cause. Ça, c'est énorme. Mais attention, si tu te maries avec quelqu'un qui est à fond dans la dounia, qui va te tirer dans la dounia, qui va te détourner, qui va te... ça valait pas le coup de se marier. Ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Donc on ne dit pas de ne pas se marier, mais tant qu'à faire les choses, tu peux gagner les deux, autant le faire bien. Tu peux gagner le mariage et en plus tu peux gagner ton talibul ilm, si tu as bien fait les choses. Mais si tu fais mal les choses, tu peux gagner le mariage et perdre le talibul ilm. Et en général, une personne qui empêche ou qui met les bâtons dans les roues ou qui détourne, excusez-moi, j'ai dit en général, ça ne veut pas dire dans l'absolu, hein. En général, ce n'est pas une personne bien. En général, c'est pas une personne bien. J'ai pas dit dans l'absolu, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui empêche, c'est des mauvaises personnes. Il y en a, ils peuvent être ignorants. Mais quand on te dit, ta femme ou ton mari te dit, je vais apprendre le dîn, je veux apprendre la religion, toi, tu es content. Tu lui dis même, je vais te payer, si tu peux, hein. C'est moi, je veux les hasanettes. Si toi, t'es pas capable, par exemple, tu peux pas, tu travailles trop, je ne sais pas, tu as un empêchement, un vrai empêchement, comment tu vas faire? Tu te dis, moi, je peux pas, mais je veux les hasanettes. Eh bien, c'est comme le jeûneur, j'ai pas pu jeûner aujourd'hui, mais je vais donner une date. Le prophète, as-salam, il a dit, celui qui nourrit un jeûneur, il a la récompense du jeûneur. Eh bien, toi, tu peux pas, paye-lui les cours. Je vais vous citer l'exemple d'un frère. Je vous cite l'exemple d'un frère, hein, que j'ai connu, que je connais. Il n'avait pas la possibilité de laver les morts. Il n'avait pas cette possibilité. Il aurait beaucoup aimé, mais il n'avait pas cette possibilité. Pourquoi il aurait beaucoup aimé? Parce que c'est une grande action. C'est un grand péché pardonné. Alors si tu fais les calculs, pour avoir des grands péchés pardonnés, eh ben, tu sauras que laver les morts, c'est bien. Et pour beaucoup d'autres choses. Donc lui, il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, ce frère? Il avait sa femme qui était dans une association pour laver les morts. Eh ben, il faisait la niya à chaque fois de l'accompagner, de aller la chercher, de lui faciliter, en espérant avoir la récompense. C'est comme ça qu'il faut penser. On a déjà expliqué que la religion, c'est un tijara. C'est Allah Ta'ala, hein, qui l'a dit, hein. Vous êtes en tijara, c'est un commerce. Dans le commerce, où il y a de l'argent, on fait bien attention, on fait les calculs, on est bien, hein, avisé. Mais dans le commerce avec Allah, est-ce qu'on est bien avisé? Donc même toi, eh ben nous on avait un frère comme ça qui nous avait dit, moi j'ai pas le temps, j'ai pas la capacité, je peux pas, mais je vais payer pour des étudiants. qui veulent étudier à l'institut. Et il y a même plusieurs frères comme ça à l'institut qui, lorsqu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer, ils leur payent. Eux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Tu as les hasanettes de la personne qui va étudier, Khoya. Et ça, c'est comme ça qu'il faut penser. Et vous savez qu'à l'époque, il y a des gens dans des pays du monde, ils prennent un étudiant, ils lui payent tout. Et ils l'envoient en Arabie ou dans un institut, ils lui payent tout. Nous, quand on était au Yémen, on était contents, il y avait des sœurs de Lyon, elles envoyaient tout le temps des sadaqas. Quand on n'avait rien, on était contents, tiens, il y a des sœurs de Lyon, elles ont envoyé. Quand il y avait des sadaqas pour les étudiants, franchement, on était contents, des fois, on n'avait rien. Quand t'as rien, et on vient, on frappe à ta porte, on te dit, tiens, il y a eu un don, 100 euros là-bas, ça faisait je sais pas combien de 10 000 riyals ou je sais plus combien, t'es content. Oui. C'est comme ça qu'il faut penser. T'as pas la capacité de faire quelque chose. Amine. Amine. T'as pas la capacité de faire quelque chose. Réfléchis comment tu peux avoir la récompense de ce quelque chose. Réfléchis et tu verras que l'islam, c'est tellement bien que tu trouveras. Tu trouveras. Subhanallah. Taïb, inshallah ta'ala, sanaktafi bi hadha al-qadr. On va se contenter de cela. On se rejoint dans le deuxième cours, inshallah ta'ala, dans une vingtaine de minutes. Institut Tawhid, Oustaz. Il n'y a pas une faute ou alors j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est cela. On a dit à la fin, ils n'ont donc aucune connaissance de la certitude, ils n'ont pas la force en l'amour. Et son message est ce qui les poussera à ne pas avoir comme priorité la famille et les biens. Merci beaucoup. Je pensais que la priorité n'était pas la famille et les biens. Allah Ta'ala dit dans le Coran que la famille, les enfants, ça peut être une fitna. Wa auladukum fitna. Une tentation. Donc, dans certains contextes, attention. Ils peuvent te détourner les biens. Al-mal ou al-banun ou zinat al-hayat al-dunya wa baqiyat al-salihat. Al-mal ou al-banun. L'argent, les biens de ce bas monde sont la parure de ce bas monde. Ce qui reste auprès d'Allah ou Ta'ala, c'est tout ce qui est vertueux. Cheikh Nadir, le message d'Allah, celui qui accomplit le lavage d'un musulman et n'en dévoile rien, Allah lui pardonna 40 fois. Naam, c'est ce que j'avais dans la langue. Lorsque j'ai parlé de ça, Naam, celui qui lui creuse sa fosse et lui introduit aura la même récompense que s'il l'avait abrité jusqu'au jour de la résurrection. Et celui qui l'embaume, Allah le revêtira au jour de la résurrection d'habits de foi, de soie fine et de brocart du paradis. Pose ta question, cher Abdallah, il n'y a pas de souci. Tu peux poser une question. Attention, hein, les lavages des morts, tout ça. Allahu Akbar. Hein. Naam. C'était un exemple que j'avais pris, hein, le lavage. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dedans et puis ils n'avaient pas les épaules. Ils n'avaient pas les épaules. Donc attention, beaucoup des petites jeunes ou des jeunes qui se lancent dedans et puis ils n'ont pas les épaules. Donc vaut mieux commencer petit à petit, se former, apprendre le tawhid, certaines choses. Et après, parce que c'est pas un truc de tous les jours, laver des morts. Déjà, en soi-même, faut être quelqu'un de vertueux, de... Wallahu a'lam. Donc il y a beaucoup de gens, ils se sont lancés dedans, on parle par expérience, hein, c'est pas... Est-ce qu'enlever son qamis pour aller à l'université par peur du regard? Je tombe dans un péché car j'ai peur du mécréant au lieu d'Allah, voire même du shirk, Allahu alam, car je voulais attendre une ou deux semaines avant d'aller à la fac en qamis, car il n'y a aucun akhi là-bas et et je ne veux pas qu'il me haïenne. Quel est votre avis? Je dois continuer mon port du Qamish chaque jour depuis peu de 6 ans où j'enlève et j'attends petit à petit. Barakallahu fik, je précise, je n'ai pas peur qu'il me frappe ou quoi que ce soit. Juste, je me dis qu'ils peuvent essayer de me faire des choses bizarres dans mon dos ou l'œil, etc. Ala kulli hal, si c'est par peur, si c'est par peur qu'on te fasse des choses, quelles qu'elles soient, tu peux ne pas mettre le qamis, mais tu dois quand même être habillé avec un vêtement légiféré. À toi de te débrouiller. Le wajib, ton wajib, c'est pas le qamis. Le qamis, il n'est pas wajib, mais il est préférable. C'est le vêtement le préféré du prophète, alayhi salam. Par contre, là où c'est wajib pour toi et que tu n'as pas le droit de faire demi-tour, hein, c'est une expression, hein, c'est le vêtement légiféré. C'est quoi le vêtement légiféré? C'est le vêtement large. Tu ne dois pas mettre de jean, de pantalon serré. Là, tu seras en porte-à-faux concernant la législation. Donc, à la rigueur, pour commencer, tu peux mettre un sarouel. Par exemple, moi je te donne des exemples. Hein. Ou alors pantalon large. Attention au-dessus des chevilles. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Ma asfal min al-ka'bin, min al-izari fa fin nar. Tout vêtement en dessous des chevilles ira en enfer. Donc, ton obligation, c'est au-dessus des chevilles et c'est également. Vêtements larges. Parce que même si tu pries, bon, je pense que tu mettras un kamis ou alors, mais al-muhim, l'obligatoire, c'est d'avoir un vêtement légiféré. C'est comme pour la femme, hein. C'est comme pour la femme. L'obligatoire pour la femme. Et l'obligatoire pour la femme, c'est le vêtement légiféré, c'est pas un vêtement précis. Concernant le djelbeb, c'est celui qui remplit le plus les conditions, donc les savants ils disent c'est le mieux, c'est préférable le djelbeb. Mais c'est pas obligatoire le djelbeb. L'obligatoire, c'est qu'elle soit habillée en vêtements légiférés, larges, pas fins, pas transparents, pas une couleur qui attire. T'as même? Wafik Barakallah, Cheikh Abdallah, dans ce milieu, nous dit Cheikh Nadir, il n'y a pas de mal, il y a pas mal de shirk aussi, qu'Allah nous en préserve. Amin, Naham Cheikh Nadir. Alors, concernant l'explication des chevilles, l'explication des gens de la Sunna, il y a une explication, mais cette explication des gens de la Sunna, c'est que le vêtement qui traîne en dessous des chevilles fait partie des grands péchés. Fait partie des grands péchés. Si on met un vêtement en dessous des chevilles, c'est un grand péché, c'est haram. Il y a d'autres explications, mais ce ne sont pas les explications prépondérantes. Wallahu alam, ce ne sont pas les explications chez les gens de la Sunna qui sont prépondérantes. Wallahu alam. Il y avait une autre question. Wafikum barakallah. Il y avait une autre question, elle est passée. J'ai une question. Si une sœur refuse un prétendant qui apprend pas la religion, elle est en faute. Si il apprend pas, mais il est prêt à apprendre. Wafikum barakallah. Il est prêt à apprendre. Mais c'est quand même risqué, hein. C'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Il est négligent. On dira pas c'est haram, on dira pas que c'est haram qu'elle se marie avec lui ou quoi. Non, on dira pas ça. Mais vaut mieux pas. Vaut mieux si vous. Vous êtes dans les études de la religion, etc. Maintenant, Ça va dépendre. Ça va dépendre. Si c'est quelqu'un qui n'empêche pas la personne d'étudier, qui n'est pas contre, il ne va pas empêcher la sœur d'étudier. C'est un bon pratiquant et que lui, c'est un bon pratiquant. Et dans les adorations, il est bien, il est irréprochable dans les adorations, etc. C'est un bon pratiquant, il est dans le manhaj, etc. On lui dira pas de refuser, mais il faudra qu'elle le conseille, qu'il apprenne sa religion. À la kulli hal, ça sera toujours mieux de... Oui, de toute façon, le cours, il est fini. Wafikum barakallah, le cours, il est terminé. Ce sera toujours mieux d'épouser quelqu'un qui apprend sa religion. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala... Non, empêche pas et pratique, d'accord, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, comme on a mangé déjà 10 minutes, Inch'Allah, ça sera vers et demi, Inch'Allah, le prochain cours. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.